Je voudrais remercier l'intervenant. Juste une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un à l'Italie en bas. Je lui dis, tu vas où? Je vais voir Cyrano. Je lui dis, tu fais chanter les gens. Je lui dis, moi, je veux voir Cyrano, celui qui fait réfléchir.
Moi, je veux vous faire chanter les mots.
L'importance au mot musulman, c'est-à-dire que même moi qui suis musulman, j'ai dit j'essaie d'être musulman, parce que seul Dieu saura si vous l'êtes ou pas. Jacques Berck, quand il a traduit le Coran, il a dit essaie de traduction, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on dit. Donc est-ce que vous ne pensez pas que la presse joue un mauvais rôle dans cette... À la limite, on pourrait presque dire un présumé musulman, jusqu'à ce qu'on sache vraiment qui il est. C'est qualifier musulman n'importe qui, c'est, je pense, rendre péjoratif le mot musulman. Merci.
Une question?
J'essaie d'être discipliné, de ne pas toucher au micro.
Même pas la regarder.
Ou presque. Et on dit que le début de la civilisation, c'est déjà la discipline. Et on distingue la discipline de l'armée de la discipline de l'orchestre. Alors, puisqu'il n'y a pas eu trois questions, mais qu'une seule pour celle-là, sous l'autorité de Paul qui dirige la soirée, je donnerai une réponse prolixe pour tordre le cou à un non-sens total sur le vocable même islam qu'on traduit scandaleusement et abusivement par soumission. Et le pauvre malheureux de Houellebecq ne le sait pas non plus. Il ne sait pas que son livre qui a été traduit en arabe n'a pas été traduit par l'islam. Et c'est pas parce que le traducteur ne veut pas, parce qu'il ne peut pas le traduire, parce que soumission, c'est pas islam. C'est curieux, une stricte synonymie qui ne va que dans un sens, mais pas dans l'autre. Et on croit. Donc, j'en profite pour expliquer des choses. Étymologiquement, islam, sur la racine trilitaire SLM, où il y a paix et salut, salam, le salut, et la paix aussi. Et quand on a un i en langue arabe, ça veut dire qu'il y a une entrée dans. Si je devais dire isbah, c'est une entrée dans le sobh, donc dans la matinée. Si je devais dire ishra, c'est une entrée du côté de l'est, etc. S'il y a un i, le islam, c'est une entrée dans la paix, rien d'autre. C'est une déprise de soi confiante et dans la paix à un abandon paisible et spontané. Une déprise de soi pour une remise de soi, en l'occurrence à Dieu. C'est une sorte, parce que c'est pas. En l'espèce, c'est pour Dieu. Et c'est pour ça que coraniquement, Abraham est considéré comme un musulman. Il a consenti à offrir son fils pour l'Holocauste à Dieu. Il a consenti à donner son fils à Dieu par acte d'islam, pas par acte de soumission à Dieu. C'est pas gênant d'être soumis à Dieu pour un croyant. Mais en tout cas, par acte d'amour, par acte de paix, de pacification. Donc le musulman n'est pas soumis, comme beaucoup de sachants veulent bien nous le faire savoir. Donc là, il y aura, les apôtres, coraniquement parlant, sont considérés comme des musulmans. Les prophètes aussi, parce qu'ils se sont remis à Dieu, comme un chrétien et celui qui a suivi, celui qui a été oint, qui a reçu l'onction. Je parle de l'étymologie aussi. Et longtemps, dans la prédication mohammedienne, son ministère apostolique, c'était de 610 à 632, les 12 premières années de sa prédication, il ne prêchait pas l'islam. Il disait que ce n'est que le retour à la religion d'Abraham. Et c'était plutôt les croyants qui suivaient sa prédication, et les musulmans, c'était aussi les chrétiens et les juifs qu'il connaissait. Après, ça s'est inversé. C'est-à-dire, si vous souhaitez un terme, c'est les mahométans. Ça rappelle les Turqueries de Molière. Bon. Maintenant, malheureusement, musulmans, dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, et surtout chez les faiseurs d'opinion, c'est quasiment l'immigré maghrébin. Oui. C'est comme ça. Ou un peu le subsaharien, mais bon, avec une confusion mentale terrible. Alors, c'est pour ça qu'on parle effectivement de préfets musulmans, mais on n'a jamais parlé de préfets juifs ou de recteurs d'académies bouddhistes ou d'ambassadeurs protestants ou de ministres catholiques, plus ou moins. Mais... Donc, voilà, on parle de ça. Deuxièmement, la question des médias. Pardon, je reviens à ce que je racontais lors des éditions précédentes. Pour certains, la pédagogie, c'est de rappeler les choses autrement. C'est l'art de redire les choses. Alors, j'essaye de redire autrement, mais je ne peux pas. C'est comme ça. On a eu droit à des débats dits de grande tenue, aux heures de grande écoute, où d'un côté, on a eu la grosse artillerie, même si à titre personnel, je mets de sérieuses réserves sur la dite artillerie, surtout quand on nous raconte que Jean-Baptiste Botul a existé. Et de l'autre, tour à tour, pas qu'une seule fois, on a eu droit à un rugbyman, un judoka, un basketteur, un rappeur et une lofteuse. Mais ce n'est pas pour parler de sport ou de cette mode de musique qu'on appelle le rap ou de la télé-réalité, non. C'est pour parler d'islam, pour parler de théologie fine, de géostratégie. Et au mieux, on fait venir un imam qui est un homme et on le titille ou on le pique comme ça sur la burqa ou que sais-je encore. Il vient avec sa calotte parce qu'on pense que c'est la calotte qui fait l'imam, alors qu'en réalité c'est son savoir et sa connaissance. Même si on ne leur demande pas tous d'être des savantissimes, mais on leur demande d'être des liturges, c'est-à-dire pouvoir conduire une liturgie, tenir un office, savoir s'adresser aux fidèles. L'imam est aussi un thérapeute de l'âme. Il doit écouter, il doit aider les fidèles, une sorte de prise en charge spirituelle. Donc malheureusement, c'est toujours facile de se défausser sur les journalistes, et un bon journaliste est celui qui donne à penser, un mauvais journaliste est celui qui livre sa pensée. Or, en matière d'islam, les pensées sont toutes faites. Mais avec un fatra, dans les idées, où le djihad est une guerre sainte, la charia est une loi de coupeur de main, la fatwa est une condamnation à mort, Allah est une divinité mahométane, et que sais-je encore, de confusion, de maladresse, de bilvesée, de fadaise, d'idiotie, d'abusie, d'impéritie, d'analyse, qu'on a comme ça à longueur de journée, débité par les vedettes célébrissimes du 20h, où l'on dit, eh bien, on a un musulman qui a épousé une Française. Ah. Et le dit musulman est en français, mais bon, ça rappelle Raymond Barre quand il disait... des Français innocents et des Juifs. Voilà. On en est encore là. 1981 ou 83, je me rappelle. Bon. Donc, on en est encore dans cette situation. C'est pour ça que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Hélas. Et alors, que faire? On ne peut pas indéfiniment refaire l'éducation de non-journalistes, j'aime pas trop le no parce que toute généralisation est abusive et tout essentialisme est réducteur. Mais il se trouve, malheureusement, qu'il y a une paresse intellectuelle, des crampes mentales dont il faut savoir guérir. Et si on ne peut pas le faire, à mon avis, sans communautarisme aucun, je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, mais si ça s'apparente au communautarisme de ce que je vais dire, et bien là, il faut l'assumer. Au lieu de construire une énième mosquée, j'ai vu de mes propres yeux des gens faisant la quête dans les marchés allez, donnez-nous pour construire une mosquée. Ben non, il faut construire des écoles, des instituts, des universités, des bibliothèques et des chaînes de télévision qui, elles, expliquent, qui, elles, vont donner lieu à la civilisation islamique. J'ai dit tout à l'heure que ce fut une civilisation impériale. Enseigner la langue arabe, pas comme l'aurait pensé et cru un Jean-François Copé comme étant la langue des immigrants, c'est parce que c'est une langue onusienne, diplomatique, de poésie, suggestive, lyrique, et le substrat arabe des langues latines, y compris le français, est beaucoup plus important en nombre que le gaulois. Et donc, le faire savoir, l'expliquer par la culture, la connaissance, l'acquisition du savoir, l'instruction, l'ouverture sur le monde, l'amour du beau, de la beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski, entrant en résonance avec un aphorisme prophétique, Dieu est beau et il aime la beauté. Eh bien, c'est aussi une manière de nous faire sortir de ces impasses dues aux appellations. On peut indéfiniment écrire, le faire expliquer sur les réseaux sociaux, mais je n'ai rien contre BFM TV, mais ce que j'appelle la BFMisation des esprits se résume dans l'épisode connu où l'on abaisse le magistère du verbe présidentiel et on monte celui de Leonarda, qui parle après le président de la République pour dire qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle viendra et qu'elle contredit le président, quel qu'il soit. Mais si c'est ça de l'information, ça, je ne sais pas, ça participe, le mot est peut-être fort dans ma bouche, à la crétinisation générale de nos concitoyens, y compris dans le fait de considérer que la confession islamique comme synonyme de l'ethnie maghrébine. Et ça, c'est un tort terrible.
Oui. Excusez-moi, je ne sais pas si ma question est à propos. Je n'ai aucune idée précise de la charia. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu, parce qu'on a toujours dit charia et la loi islamique. Quand on parlait de loi, ça me fait peur.
Dans le fil de l'histoire, dans l'histoire, hein, la qualification que l'on a sur la culture, on dit toujours la culture judéo-chrétienne. Quand est-ce que vous pensez qu'on pourra dire judéo-chrétienno-musulmane ? Merci.
D'après mes humbles connaissances, il y a deux sortes de djihad. Il y a le petit et le grand. Et alors, bon, comment ça se présente ?
Bien, bien.
Du coup, tant qu'à faire, si on reste dans l'explication étymologique, peut-être revenir sur la notion de laïcité aussi, tant qu'à faire.
Très bien.
Oui, et moi, je vous ai évoqué l'existence d'un humanisme arabe ancien. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu aussi, s'il vous plaît. On connaît les noms d'Averroès, par exemple, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres philosophes, et j'aimerais bien avoir leurs noms, de façon à pouvoir aller un petit peu voir ce que c'est.
Charia de notre ami ici, vous avez tout à fait raison de poser la question, et elle est même à propos. L'histoire de culture judéo-chrétienne et puis de l'autre islamique et confesse qu'on revient à une culture judéo-islamo-chrétienne. Et puis la question de monsieur sur le djihad, et vous avez dit à mon humble connaissance, mais vraiment vous en avez de la connaissance, puisque vous distinguez les deux, le grand djihad et le djihad majeur et le djihad mineur. Alors que des musulmans pensent que c'est une guerre sainte. Et puis la laïcité, il faut bien expliquer ce dont il s'agit, et puis l'humanisme. Et quitte à commencer, mais d'un mot de la dernière question, je n'ai pas pensé à Averroès. Averroès est un philosophe, au départ juriste, mais philosophe. Quand je parle de l'humanisme, je parle véritablement d'humanisme. Et je reviendrai là-dessus. Alors, dans l'ordre, la charia. Je puis vous assurer que ce n'est pas la loi islamique. C'est tout simplement la loi. Il n'y a aucune raison de dire que c'est la loi islamique. En langue arabe, on avait besoin, maintenant on n'a pas vraiment besoin de lui ajouter une épithète, mais en langue arabe, on ajoute un qualificatif pour savoir de quelle loi il s'agit, puisqu'on parlait de la charia d'Amourabi, de la charia de Napoléon, la charia de Moïse, la charia de la jungle, la charia positive. Dans sa seconde acception, parce que sa première acception, la charia, c'est une sorte d'avenue, une voie. Sous-entendu que lorsque la voie est balisée, qui balise le comportement des hommes, ça devient une sorte de loi qui mène vers Dieu. Voilà. Au départ. Et puis, dans le Coran, ça n'a pas nécessairement le sens de la loi. C'est en gros une sorte de religion, enfin quand on parle de la législation de vos devanciers. Interrogez vos devanciers dans la foi, c'est les juifs et les chrétiens, si vous ne savez pas, suivez leur législation, leur charia, leur vision du monde et leur façon d'être. Et les musulmans, allez, pour être très prosaïque et très simple, ne mangent pas de porc parce que les juifs n'en mangent pas. Voilà, ça fait partie d'une même charia, si j'ose dire. Bon, de nos jours, c'est vrai que si on dit charia, le mot est anxiogène, on pense à la charia islamique, au coranique. D'abord, aussi étonnant que ça puisse l'être, ce n'est qu'une construction humaine. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a 4 écoles juridiques. Mais si c'était de Dieu et c'est simple et qu'il faut l'appliquer tel quel, il n'y a rien à voir, il n'y aurait pas eu 4 écoles juridiques. D'ailleurs, personne ne dit pourquoi pas 3, pourquoi pas 5. C'est-à-dire que le 4 n'est pas garanti par le divin. C'est un concours de circonstances. On a failli avoir 3. Je veux dire, si je prends encore quelques minutes, comment se fait-il que le 4e est consacré? Et puis on a failli en avoir 5, mais la 5e école est devenue évanescente et puis elle est morte de sa belle mort. Et on a failli en avoir 3. Et puis, à supposer qu'il y ait une loi islamique et qu'on applique d'une manière univoque, si je devais parler latin, j'aurais dit ne varietur, on l'applique tel quel, comme ça. Eh bien, les Omeyyades auraient gouverné, sinon d'une manière anti-islamique, au moins d'une manière an-islamique. La dynastie des Omeyyades, c'est 661-750. Eh bien, le premier maître éponyme, le premier maître d'une des écoles juridiques, lui est mort en 767. Et le dernier, si on consacre les 4, est mort en 855. Ça sous-entend qu'avant 767, on n'avait pas encore le corpus juridique bien établi. Il n'y avait pas de charia d'eux, au sens où nous l'entendons maintenant. On n'avait pas avant. Et entre 767 et 855, elle était en cours d'élaboration. On ne peut pas l'appliquer, puisque, bon. Autre argument. Si d'aventure, ce furent les contradicteurs de ces maîtres qui avaient triomphé, ben nous serions en train de sacraliser des dispositions totalement à l'opposé de ce qu'on est en train de faire maintenant. Quatrième argument, même on va l'appliquer, allez, on va l'appliquer tel quel, on est heureux d'appliquer la loi de Dieu et on vote pour des partis islamistes, etc. Mais on va se rendre compte que cette charia ne nous dira rien sur Internet, sur le droit maritime, sur le droit des assurances, sur les arsenaux nucléaires, sur rien, elle ne dira rien. Elle va dire quelque chose sur le statut personnel en minorant la femme, et sur la dévolution successorale, sur l'héritage. Voilà. Ou éventuellement, couper la main du voleur. Encore que, paraît-il, le verbe arabe n'est pas aussi clair. C'est pas amputer, mais c'est faire une entaille. Ah, et là, on est en train de faire de la casuistique. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Et j'arrêterai là la réponse, parce que malheureusement, elle prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Un, il faut considérer les passages dits normatifs dans le Coran, ou législatifs, ou prescriptifs, comme une jurisprudence à un moment donné de l'histoire pour un peuple qui allait passer de la situation un peu tribale vers quelque chose d'un peu plus confédéré. Et donc ça avait besoin, telle une propédeutique sur les 23 années lunaires du ministère apostolique, eh bien de quelques prédispositions de type législatif pour accompagner cette mutation. Et après, il y a une délégation faite aux hommes de se débrouiller entre eux. Quelqu'un comme An-Nadhal, vous ne le connaissez pas, il est mort en 844-46, neveu de Wasil, fils de Atta, fondateur de l'école Mu'tazilite, cette fois-ci une école des rationalistes, ne disait rien d'autre que ça. La production du droit est une émanation rationnelle des hommes qui s'appliquent aux hommes. On peut éventuellement, puisque tout législateur ne le fait pas comme ça, il s'adosse à un principe transcendant ou métaphysique, on peut se dire, tiens, on a la révélation et je peux considérer tel ou tel passage comme m'aidant dans ma réflexion. Mais de nos jours, surtout dans nos sociétés composites, plurielles, diversifiées, multiconfessionnelles, on ne peut pas venir se prévaloir de sa vision du monde ou de l'origine de sa propre législation pour l'imposer à autrui. Et là aussi, il y a un énorme travail à faire pour, ce n'est pas un néologisme puisque je l'ai vu quelques fois, déjuridiciser la révélation pour vivre à l'aise, en harmonie avec la législation positive. Si elle nous plaît, c'est très bien, si elle ne nous plaît pas, dans un État démocratique, on vote pour d'autres députés pour changer la loi. Et après, bon, il y a la majorité, l'opposition, etc. Mais on ne peut pas venir imposer des lois dites célestes à autrui. Surtout si nous n'avons pas tous la même vision du sacré. Et d'ailleurs, pour le sacré, il vaut mieux l'amaigrir ou l'amincir, parce que de nos jours, il est devenu obèse. Tout est sacré. Et Roger Caillois disait, le sacré, c'est ce dont on s'approche sans avoir subi une fulgurance. Voilà. Donc, la sortie de crise, c'est de ne pas arrimer le droit à la révélation. Il n'y a aucune raison. Quand j'ai cité tout à l'heure Beccaria, quand il a commencé à le faire, je cite cet exemple uniquement à visée pédagogique, avec le jus canonicum, avec le droit canon, bien certains disent, eh bien on est arrivé assez rapidement à l'abolition de la peine capitale. Nous serions peut-être arrivés à un moment donné dans la longue maturité de l'esprit humain à ce qu'on abolisse la peine capitale, mais peut-être pas en 81 en France ou en Europe, enfin vers ces années-là, peut-être qu'on y serait arrivé plus tard, parce que dans le droit canon, ça y est, la peine capitale pour les criminels, etc. Mais comme on a désarrimé ou désintriqué, on ne s'était pas enferré dans le droit dit révélé, bien, l'intelligence des hommes, parfois n'est pas terrible, mais parfois elle est formidable, a fait progresser le droit. Il y a tout le débat, est-ce que c'est la société qui fait progresser le droit ou est-ce que c'est le droit qui fait progresser les sociétés, c'est autre chose. Bien. Donc j'arrête là parce que sinon il n'y aura pas de place pour les autres questions. Ah oui, la question judéo-chrétienne. Bon, ce que je vous dis, mes chers amis, c'est révisable, discutable, contestable à chaque instant, je n'en fais pas un dogme absolu. Cependant, ce n'est pas parce que j'ai aussi le micro que j'ai nécessairement raison, mais je puis vous assurer que le trait d'union entre judéo et chrétien est beaucoup plus récent dans l'histoire, alors que le trait d'union entre judéo et islamique est beaucoup plus prégnant dans l'histoire. Et j'entends par là au niveau culturel et civilisationnel. J'entends pas par là au niveau théologique, avec les écrits vétérotestamentaires et les écrits néo-testamentaires. Le premier ou l'Ancien Testament et le Second Testament ou le Nouveau Testament. Ben-Yahya ibn Pakuda écrivait en arabe. Maïmonide écrivait en arabe. Ibn Gabirol écrivait en arabe. Sadia Gaon écrivait en arabe. Les disciples d'Averroès, Moshe Narboni, Moïse de Narbonne, Nissim de Marseille, Eliade el-Megiddo, pour ne citer que ces trois-là, il y en a davantage, étaient des continuateurs juifs. La distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle. J'ajoute là aussi quasi par précaution, parce que quand je vois les noces juives de Jeanne de la Croix, et si j'enlève la légende, je ne peux pas savoir s'il s'agit de noces arabo-musulmanes ou des noces juives. Les mêmes goûts musicaux, la même ce sont des mélomanes de la même façon, les mêmes goûts culinaires, la même gastronomie, les mêmes habits, la même vision du monde, alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar, elle est abyssale. Et il se trouve que le trait d'union entre judéo-chrétiens, pour certains, il n'apparaissait qu'avec Jules Isaac au milieu des années 50. D'autres disent, mais non, quand même, Freud en a parlé un peu, allez, ça remonte à Freud. Et d'autres qui cherchent comme ça, ils trouvent que sa proto-histoire est dans le Mayflower, parce qu'il y avait des juifs qui avaient traversé l'océan, la mer des ténèbres, pour le Nouveau Monde, avec des protestants. Bon, mais c'est tout, mais avant, il n'y avait pas. Au contraire. Et on nous fait croire qu'il y aurait d'un côté des valeurs dites judéo-chrétiennes en opposition avec les valeurs islamiques, alors que du point de vue, certes, de la cohérence interne islamique, il y a une continuité, c'est un continuum. La révélation coranique est propagatrice dans un prolongement naturel des préceptes de la Torah et des commandements de l'Évangile. Rien d'autre. Les divergences sont de type doctrinal, sur des considérations dogmatiques, théologiques, pas sur le socle éthique commun, à aucun moment. Le tu ne tueras point, le tu aimeras ton prochain, la miséricorde, etc. C'est le socle éthique abrahamique. En outre, le pourtour méditerranéen, il est ensemencé sur le plan religieux par ce qu'on appelle le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, mais aussi et surtout d'expressions gréco-arabes, même si maintenant c'est oublié ou oblitéré ou effacé des mémoires. Je ne vais pas quand même faire le couplet sur la longue phrase en langue arabe. Bon, donc je ne fais pas. Bon. Pas la peine. C'est pour dire que la forte prégnance, l'enlèvement au sérail composé par Mozart présente le Pacha Selim comme un homme longanime et magnanime qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. L'italienne à Alger de Rossini, Sherazade de Nikolaï Rimsky-Korsakov, les arabesques de Debussy, pour ne citer que quelques exemples de l'art lyrique, l'art pictural, et là, l'engouement, la fascination. Jean-Étienne Guillotard faisait son autoportrait en turbané. Parce qu'à ce moment-là, c'était à la mode. Marie-Adélaïde de France s'habillait à la manière turque. Depuis les capitulations et puis les rencontres, les échanges d'ambassade qu'il y avait entre François Ier et Soliman le Magnifique, encore lui. Quand Haroun al-Rachid, immortalisé par les mille et une nuits, a offert à l'astrolabe à Charlemagne, nous racontons, est tombé en panne. Et puis on lui avait dit, sire, on peut l'arranger, on connaît quelques orfèvres, il a dit, non, surtout pas ne touchez pas, c'est un travail d'arabe. Avant que la notion de travail d'arabe ne s'inverse. Donc, essayez d'expliquer maintenant qu'il y aurait une sorte de collision entre deux sphères civilisationnelles insécables est un non-sens total et même une ineptie de type conceptuel. Bon, donc je peux dire beaucoup de choses là-dessus. Autant parler du monothéisme abrahamique, quoi, et les mêmes valeurs de ce monothéisme abrahamique. Alors, dans l'ordre, c'était, ah oui, le djihad. Là, ça c'est aussi long. Alors, pour aller à la concision, et on le fait par la frustration. Faisons aussi de l'étymologie racine trinitaire, comme pour les langues sémitiques. Le djihad, c'est repose sur la racine J-H-D, qui ne veut rien dire d'autre que effort. Effort, voilà, pas de guerre, c'est effort. D'autant plus que dans le champ sémantique du Coran, il y a le mot guerre, le mot combat, le mot conflit, le mot bataille, le mot tuerie, etc. L'auteur premier, qu'il soit Dieu pour les croyants musulmans ou celui qui aurait, dans une fiction littéraire, composé cet ouvrage, n'aurait pas à ajouter un autre mot dans le champ sémantique de la guerre avec djihad, puisque les autres existent. Donc le mot ne veut rien dire d'autre qu'effort. Et les passages qui en parlent, très rares d'ailleurs, jamais sanctifiés, jamais, même pas un effort saint, pour parler de guerre sainte, même pas. Ben, ceux qui accomplissent un effort dans la voie de Dieu auront leur rétribution auprès de lui. Et donc on a effectivement les deux efforts, un effort mineur et un effort majeur. Un effort tourné vers l'extérieur, une sorte d'effort exotérique, et un effort intérieur, tourné vers soi. Ce qu'on appelle l'effort salvateur ou l'effort majeur, le djihad salvateur. Ben, le premier, c'est trimer, bûcher, fagoter, guerroyer. Il ne s'agit pas d'éluder, j'allais dire, la question principale et qui fâche. C'est-à-dire faire un effort. Si ça me coûte un effort musculaire de porter cette bouteille, ben, j'ai un effort. J'ai fait un effort. En langue arabe, pour les physiciens, la différence de potentiel est une différence de djihad. C'est curieux, mais c'est comme ça. Oui, c'est une différence de djihad. Bon. Eh bien, et l'effort majeur, c'est le fait d'atrophier son ego, juguler sa passion, réguler ses désirs, se maîtriser au moment de la colère, œuvrer pour que les mauvais penchants ne l'emportent pas. Voilà ce qui est voulu et compris véritablement par le djihad et surtout le grand djihad. C'est vrai qu'il y avait cette affaire de retour d'une escarmouche ou d'une bataille entre primo-musulmans et mécois, et puis il y avait cette parole prophétique. Effectivement, nous sommes rentrés du petit djihad pour que nous nous livrions au grand djihad. Voilà qu'à travers l'histoire, les hommes voulant être des monarques, avec leur faiblesse d'homme, ont assurément galvanisé des foules pour agrandir les frontières de l'Empire, rien d'autre. Croire que c'est avec la notion du djihad qu'il y a eu expansion de l'islam, c'est aussi un non-sens historique. La toute première ville à être islamisée, la Mecque, c'était sans coup férir. Damas, sans coup férir. Sans effusion de sang. Jérusalem, sans effusion de sang. En Afrique subsaharienne, sans aucune bataille. En revanche, du côté de la Chine, oui. Pas du côté des comptoirs. Mais les véritables engagements et les flux et reflux, c'était avec les Byzantins et les Sassanides. Ça, on pourra en dire encore beaucoup de choses. Et les hommes, voulant galvaniser encore une fois les foules et surtout les soldats, bien, on leur disait, vous savez, vous allez accomplir l'effort dans la voie de Dieu. Si vous mourrez, vous mourrez en martyr. Et si vous arrivez à être vainqueur, eh bien, vous aurez accompli la diffusion de la parole de Dieu et les lumières de la foi, etc. Si on avait un peu plus de temps, je vous dirais comment se fait-il qu'il y a eu cette notion de guerre sainte. Malheureusement, c'était au moment des croisades. Le djihad des uns, c'est la guerre sainte des autres et vice-versa. À ce moment-là, il y avait aussi des contacts et des porosités sur ce qu'on appelait la chevalerie spirituelle et la chevalerie arabe. Alors, maintenant, la laïcité. Alors, la laïcité, c'est un concept qui n'est plus autosuffisant. La preuve, c'est qu'on éprouve un besoin de le qualifier. Et tout concept dont on éprouve le besoin de lui accoler une épithète n'est plus autosuffisant du point de vue de sa signification, puisqu'on nous parle de laïcité positive, laïcité négative, donc en creux, laïcité d'intelligence, laïcité de punition, punitive, la laïcité d'indifférence, la laïcité de tolérance, même si Claudel disait qu'il y a des mots pour, il y a des maisons pour cela. Donc voilà, la laïcité. Eh bien, si on fait un peu d'étymologie pour accéder au désir de notre ami, c'est Émile Littré, qui la toute première fois, en 1871, dans son dictionnaire, a fait ce qu'on appelle une substantivation en féminin d'un mot construit sur le grec tardif laïkos, qui lui-même s'enracine dans le grec ancien laos, qui est une des trois dénominations du peuple. Vous avez ethnos, demos et laos. L'ethnos, c'est l'ensemble des caractéristiques culturelles, voire religieuses du peuple. En termes techniques, on aurait parlé de la mantique grecque. La mantique, c'est l'art divinatoire. Et le demos, c'est la population dans l'agora, dans la cité, de laquelle étaient exclus les femmes, les métèques et les esclaves. C'est pour vous dire que la démocratie est évolutive et perfective, et que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni gratuite, ni obligatoire, ni laïque. C'est vrai que notre démocratie maintenant est meilleure que celle de Poutine, que les Scandinaves nous rigolonnaient. Donc ça sous-entend quoi? Que la démocratie est une promesse, est un point à l'horizon. Donc ça c'est le démos. Et le Laos, c'est le bas peuple en opposition par rapport au clair. Vous avez le bas peuple et vous avez les clercs. Bon. Tiens, j'en profite pour dire ce qu'on appelle une aporie, une contradiction. Vous vous rendez compte qu'on a pris laïque de l'univers mental et théologique des catholiques chrétiens. Parce que là aussi, dans le droit canon, on a deux états fondamentaux, l'état clérical et l'état laïque. Et donc le laïque est celui qui est baptisé, faisant partie du peuple de Dieu, chrétien. Simplement, il n'a pas reçu la tonsure. Voilà. Il y a certains qui la reçoivent naturellement, qui la cavouent, et j'en connais un. Bon, mais tout ça, ils font partie du peuple de Dieu. Et voilà que par une ironie du sort, le laïc pour les Grecs, pour les Belges, c'est l'athée. Ben non, au départ, tout à fait au départ, avec toutes les querelles et le mot creux euphémistique, les frictions qu'il y avait entre les deux Frances, la France cléricale et la France anticléricale, pour apaiser un peu les tensions, on leur a trouvé un mot qui serait un peu moins connoté du côté des cléricaux, mais ce n'est pas non plus quelque chose en dehors de l'univers mental théologique chrétien. Et c'est celui-là qu'on a érigé comme étant principe de neutralité. Heureusement, on dit souvent que c'est l'usage qui donne sens au mot et pas nécessairement l'étymologie. Je voulais le dire uniquement pour souligner ce qu'on appelle une aporie linguistique et sémantique. Maintenant, revenons à des choses plus sérieuses. D'abord, ce n'est pas une valeur. La laïcité, c'est un principe. Quand j'entends beaucoup de nos hommes politiques dire qu'il faudrait ajouter à la triade républicaine laïcité, ben ils mélangent. On a trois valeurs, vertu, liberté, égalité, fraternité. La justice est une vertu, mais la liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs. Et la laïcité est un principe. Un principe n'a pas d'épaisseur idéologique, n'a pas de densité, c'est un principe juridique. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Voilà, une phrase alambiquée, mais elle dit ce qu'elle dit. Et donc c'est le parapluie sous lequel nous nous abritons tous. Ce n'est pas une doctrine qui rivalise avec d'autres. C'est la catalyse, c'est le catalyseur en chimie, je le dis sous le contrôle de Nicole, qui a longtemps enseigné ces choses-là, un catalyseur ben, ce ne sont pas les réactifs, ce ne sont pas les produits, et ils favorisent la réaction chimique. Ben, une laïcité, je n'ai même pas envie de la qualifier de quoi que ce soit, permet la coexistence heureuse, intelligente, de l'ensemble des citoyens, par-delà leur appartenance confessionnelle, que ce soit des croyants ou non, mais avec la liberté aussi de changer de croyance. Ça, on l'oublie. Donc, criminaliser l'apostasie est en soi criminel et inacceptable. C'est quelque chose de la plus haute importance. Et l'un des scotums, je parle sous l'autorité des ophtalmologistes ici présents, parce qu'un scotum est un point aveugle, c'est-à-dire un point aveugle. Ben, le point aveugle de la pensée théologique islamique de nos jours, c'est l'affaire de la criminalisation de l'apostasie, qui n'a pas de fondement théologique coranique, c'est aussi une construction humaine, malheureusement, et on l'a sacralisé, et on est dans l'impasse. Bon. Donc, voilà à peu près l'étymologie de la laïcité, parce qu'on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Et c'est bon à transmettre. Si la laïcité n'a pas joui d'un accueil favorable dans les pensées, dans les langues véhiculaires de la pensée islamique, c'est à cause d'un malentendu sémantique, rien d'autre. C'est-à-dire que l'équivalent de laïcité en ourdou, en persan, en swahili, en arabe, en turc, en gujarati, en hindi, il n'y en avait pas, comme il n'y en avait pas en espagnol, en allemand, en anglais, etc. Bon, il n'y en avait pas. Mais à ce moment-là, on a traduit par des barbarismes, ou l'équivalent de barbarisme, mondité au lieu de mondanité, scientisme, je ne vois pas où est le scientisme avec la laïcité, et quand on demandait, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça, bien oui, mais c'est le gouvernement de ceux qui ne veulent pas gouverner avec, selon la foi, c'est-à-dire c'est devenu le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi, c'était compris comme le gouvernement de la voyoucratie. Donc parfois, de bonne foi, si j'ose dire, on avait rejeté le concept. Mais on oublie que quelqu'un comme Ben Badis, président de l'association des oulémas algériens, s'était égosillé à requérir auprès du Conseil d'État l'application de la loi dite de séparation, celle du 9 décembre 1905, dans les départements outre-Méditerranée, ayant compris l'intérêt à ce que l'autorité coloniale ne finance pas les clercs. Eh bien, figurez-vous que le refus n'est pas venu du côté que on pense. Au contraire, il y avait une sorte de régime dérogatoire imposé sur 10 ans, renouvelé sur 10 ans, puis c'est devenu signé. Et le pauvre malheureux, au moment où il allait pour la dernière fois, il a dit « Bon, il ne nous reste plus maintenant. » Il l'a écrit dans le Météore, qui est l'organe central de leur mouvement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui, avouez-le, pour un État qui se veut laïque, est quand même un peu cocasse. Là aussi, je puis vous assurer qu'on pourra dire beaucoup de choses sur l'intérêt qu'il y a à désintriquer les deux ordres, même si on était dans une société monocolore sur le plan confessionnel, à supposer qu'elles existent encore de nos jours. Imaginons à l'instant que je sois dans une société totalement monocolore sur le plan confessionnel. Là aussi, il faut gouverner sans collusion avec la religion. Parce que si je commence à faire de l'opposition, et l'opposition commence par « je ne suis pas content de la hauteur de mon trottoir, et je n'ai pas trouvé une crèche pour ma fille, et puis je ne suis pas ravi de l'asphalte, que je ne sais, ben, je suis opposant à mon maire. » Mais petit à petit, je critique la politique de tel ou tel, je deviens opposant à mon premier ministre, et je deviens opposant même au président de la République. Bien, quand il y a une telle collusion, je passe pour un hétérodoxe, un mécréant et un hérétique. Et ici, l'advenait aussi que je veuille changer de religion. Ben, j'abjure ma religion, ben, je suis libre. Mais s'il y a une telle collusion, je passe aussi pour un opposant politique. Donc cette collusion entre les deux n'est pas bonne, quelque climat, sous quelque climat que ce soit. Et donc c'est une marque de progrès que de ne pas gouverner selon le désir politique de Dieu que seuls les gouvernants sont aptes à connaître. Les autres non, on leur impose. Alors je passe à la dernière question sur l'humanisme. Alors, chère madame, je n'ai absolument pas pensé à Verhoeven, pour qui j'ai une admiration particulière, parce que je l'ai mis dans mon esprit, dans ma case, du côté des philosophes. En parlant d'humanisme, je pensais à trois ou quatre, mais je vous en cite au moins un. Et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne serais pas en train de me dire qui c'est, quand est-ce qu'il est mort, etc. À un moment, il aurait dû être connu, comme on aurait pu connaître Terence ou Protagoras. C'est quelqu'un du nom de Tawhidi, T-A-W-H-I-D-I, mort en 1023. Et il disait, plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. Il n'y a aucune allusion faite, ni à la révélation, ni à la religion, ni à quoi que ce soit. L'homme est une problématique pour l'homme, rien d'autre. Il a repris à son compte ce que disait Terence, l'esclave affranchi. Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et Terence, reprenant les paroles aussi de Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. Ça restait énigmatique jusqu'à présent, et on dit parfois que la philosophie n'est rien d'autre qu'un commentaire de ce passage de Protagoras. Et avec le continuum, ce que les latins appellent la translatio studiorum, la sagesse des Grecs, est venue via les philosophies de liaison arabe, et surtout ses humanistes, vers l'Europe occidentale, bien entendu. Bon, jusqu'à carrément Pic de la Mirandole ou Pétrarque. Et après, il y avait véritablement les héritiers de l'Aufklärung du siècle des Lumières, dont j'ai la faiblesse de croire qu'il n'est pas venu sui generis. C'est pas comme ça, un bon matin, on a eu un Erasme, un Campanella, ou un Bacon, ou un Thomas More, mais il y a une sorte de filiation avec la sagesse des Grecs et la transmission des philosophes néoplatoniciens musulmans. Maintenant, si je devais dire deux mots sur les philosophes musulmans, j'en prendrais deux. Le premier, l'Al-Farabus des Latins, mort en 950, que Maïmonide appelle le second maître, allusion faite au premier maître que fut Aristote. D'autres l'appellent le fils de Platon, parce que sa cité vertueuse, qui serait une sorte de remake pour l'anglicisme de la République, bien, le titre exact, en réalité, c'est les avis ou les opinions des habitants de la cité idéale, qu'on traduit ou qu'on présente comme étant simplement la cité vertueuse. Eh bien, dans la cité vertueuse, la conquête du bonheur et la quête du salut peuvent et doivent se faire sans le recours de la révélation, parce que c'est une œuvre humaine. Ce sont des hommes qui ont droit au bonheur. Et ça fait écho à un autre ouvrage intitulé « De l'obtention du bonheur », reprenant à son compte les thèses d'Épicure, avec ce qu'on appelle le tétrapharmakos, le quadruple remède. Ne pas craindre les dieux parce qu'ils sont bienveillants, ne pas redouter la mort, elle est intrinsèque à la vie, ne pas se lamenter sur la douleur si elle est vive. Elle passe vite, il faut être courageux simplement. Et si elle est chronique, il faut savoir s'y habituer. Et surtout croire que le bonheur est accessible dès ici-bas. Eh bien, le tétrapharmakos d'Épicure a été repris aussi par l'Al-Farabus des Latins, donc mort en 950 à Damas. Et c'est lui qui disait que s'il devait avoir une contradiction entre la raison et la foi, eh bien c'est à la raison de prendre le pas sur la foi. Il est mort de sa belle mort, selon une version. Sur l'autre version, des brigands l'auraient détroussé, puis en montant son cheval, il serait mort parce qu'il était âgé à ce moment-là. 872, 873, 950. Pour l'époque, c'est une grande espérance de vie. Et le second, comme ça je ne serai pas long, c'est Averroès. Averroès, dans son traité décisif, disait bien que s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la démonstration philosophique. Dire de nos jours quelque chose de cet ordre, ben on est menacé de mort, ou on est déjà mort. C'est ce qui s'est passé pour Mahmoud Taha à Khartoum, malheureusement. C'est pour vous dire la régression terrible et la régression tragique. Donc, comme conclusion à cette salve de questions, salve amicale, c'est qu'il me semble qu'il faut sortir de la raison religieuse et de la pensée magique. Parce qu'il n'y a pas plus crétinisant que de continuer à raisonner ou à réfléchir ou à gamberger dans une raison religieuse, avec l'argument d'autorité, avec la pensée magique, avec les descriptions prises au pied de la lettre du paradis, de l'enfer, etc., au XXIe siècle. C'est impossible. La religiosité est devenue aliénante. Et l'extrémisme n'est rien d'autre que le culte sans la culture, et le fondamentalisme n'est rien d'autre que la croyance sans la connaissance. Je vais relayer la question.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler d'un mot qui est malheureusement amalgamé avec le djihad, qui est le djihad? Al-Ijtihad, pardon.
Oui.
Al-Ijtihad, dont l'islam a besoin actuellement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de lectures de certains sourates, de dessins versés, qui sont mal interprétés et qui méritent malheureusement d'évoluer à l'époque actuelle.
Très bien.
Oui. Oui, moi, c'est une question que je me pose et que je réalise, c'est dans un souci d'une connaissance de l'autre et d'une acceptation de l'autre dans sa foi, et ce qui n'est pas simple pour les chrétiens de lire le Coran et pour les musulmans de lire la Bible avec un regard d'acceptation, un regard d'acceptation de cette différence. Moi, j'ai acheté un Coran et je commence à le lire. Au lieu de, je sais pas, de dramatiser, ou voilà.
Bien. J'en ai personnellement une question, donc je vais la poser. C'est un peu la question sur l'enseignement qui a été fait chez nous, sur l'islam ou le monde arabe en particulier. Personnellement, pour moi, j'ai l'impression que j'ai découvert l'islam ou le monde arabe avec Charles Martel. Hein, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Hein, comme si c'était la première marque. Hein. Et la question, c'est bien, est-ce que l'image un peu négative, on va dire, par rapport au monde arabe, etc., ne vient pas justement de ce qu'il n'y a pas eu de transmission historique sur l'histoire.
Voilà. Bien,
on
n'a plus, si on doit arrêter à
40. Voilà, on arrête vers 3 quarts si on veut libérer la pièce pour 11.
Parlons dans l'ordre. C'est vrai que tout à l'heure, quand monsieur a posé la question sur le djihad, je m'étais dit, si je rajoute encore le couplet, si j'ose dire, sur l'ijtihad, l'autre mot, avec le T cette fois-ci, eh bien ça nous prendrait énormément de temps, mais vous avez bien fait de rajouter. Ce qui sous-entend qu'il ne s'agit pas non plus de guerre, là, puisqu'il s'agit d'un effort mental cette fois-ci. Le premier, surtout quand on parle du petit effort, c'est un effort physique. La virtuosité de la langue arabe fait que lorsqu'on ajoute le ta, le té, l'effort devient mental, cérébral, intellectuel. D'abord, on va tordre le cou à une fiction qui n'est pas de moi, c'est un article d'Abdelmajid Abdelmajid Turki. Je ne sais plus s'il est de ce monde ou n'est plus de ce monde, il fut à un moment directeur de recherche honoraire du CNRS. Et puis il a écrit un article dans la revue Studia Islamica, fondée par Joseph Sharp, une revue de renom et d'importance. C'est l'équivalent de Science of the Nature, mais pour les questions islamiques. Et l'article est intitulé « Petite genèse d'une grande fiction », c'est-à-dire que les portes de l'effort intellectuel n'ont jamais été fermées, jamais, à aucun moment. À aucun moment, personne, aucune autorité n'avait proclamé la fermeture des portes de l'ijtihad pour rappeler à leur ouverture. Je trouve simplement qu'il y avait une sorte de régression terrible comme ça, et on a perdu l'exercice critique de la raison. Peut-être en conclusion, je reviendrai sur la raison. Il ne s'agit plus d'une raison instrumentale, duale, résonante, à double critère avec un tiers exclu, mais peut-être qu'au XXIe siècle, nous aurions besoin d'une raison émergente, d'une rationalité, que certains appellent une rationalité métamoderne. Donc l'exercice de la raison pour comprendre et interpréter, pénétrer, faire l'exégèse du Coran ou d'autres choses. C'est vrai que cette tradition a longtemps existé, puis elle a connu un véritable creux. Mes chers messieurs, c'est peut-être moi qui vais poser une question. Je vous la pose à vous. Ma réponse viendra peut-être tout à l'heure en aparté, mais je nous la pose à tous. Mais la pratique de l'ijtihad, c'est-à-dire la pratique de l'effort intellectuel, mental, cérébral, en contexte islamique, pourquoi faire? Si c'est pour rester dans les clôtures dogmatiques, ça ne servira à rien. Si c'est rester dans les enfermements doctrinaux, ça ne servira à rien. Si c'est pour rester dans la calcification, ça ne sert à rien, parce que cette pratique de l'effort, maintenant, est, j'ai cité comme ça d'une manière incidente le fait d'amputer ou pas la main du voleur, j'ai entendu certains casuistes, sous prétexte qu'ils sont en train de pratiquer l'effort intellectuel, de dire, ah, vous savez, amputer la main du voleur est une barbarie. Pourtant, le même verbe, on le trouve ailleurs, les femmes... qui ont été conviées par l'épouse, par Putiphar, enfin l'épouse du pharaon, etc., quand elle a vu Joseph, elle leur a donné un couteau et une pomme, et quand elles ont vu Joseph, elles étaient éblouies par sa beauté, elles se sont coupées la main, et pourtant elles n'avaient pas amputé leur propre main, comme c'est le même verbe, donc ce verbe-là ne veut pas dire amputer, veut dire simplement aller stigmatiser, j'allais dire presque au premier terme, le voleur, et donc on lui fait une entaille. Comme ça, ça lui apprendra à ne pas voler, puisqu'il en connaîtra dans sa chair qu'il fut voleur. Voilà où ce que ça nous a mené, le fameux ijtihad. Si c'est ça, on restera dans les clôtures dogmatiques et on va cautériser une jambe en bois. Maintenant, s'il s'agit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire tabula rasa de tout ça, mais s'il s'agit de subvertir, donc une pensée subversive, de l'ensemble du patrimoine calcifié comme une construction humaine par des acteurs sociaux, et le plus souvent il y avait des aphorismes attribués au prophète et qui n'étaient qu'une fabrication sur ordre du prince, rien d'autre. Et ça se démontre par l'inflation de ces aphorismes. À la mort d'Abu Hanifa en 767, il n'y en a eu que quelques-uns. Et à la mort de Ahmed ibn Hanbal en 855, il y avait 30 000. Pour certains, même 40 000. Et il est impossible qu'il y ait de tels propos qui ont été dit. Donc voilà, si l'ijtihad c'est ça, ce n'est plus la peine. Maintenant, faire appel à la batterie de disciplines que sont la sémiotique, la médiologie, l'herméneutique, l'exégèse moderne, la philologie, l'historiographie, la linguistique, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tout cas tout ça, pour concourir afin de comprendre le fait coranique, problématiser les questions de foi. Nos auteurs latins nous ont bien appris « fides quaerens intellectus », la foi en quête d'intelligence, toujours. Et la théologie, en dehors de son étymologie, n'est pas discourir sur le divin, ou tenir une étude sur Dieu, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et ça, nous avons besoin d'outils intellectuels, d'un outillage intellectuel. Et bon, alors si c'est ça l'ishtihad, c'est très bien. Si c'est uniquement dans le domaine un peu de casuistique juridique, ça ne sert à rien. Sincèrement, c'est de la perte de temps, parce qu'on a investi du temps, de l'énergie, de la réflexion à asseoir la croyance, et on a oublié de problématiser les questions de la connaissance. Et ça, c'était terrible aussi. Voilà ma réponse à propos de la pratique de l'effort intellectuel, qui est de la même racine que l'effort physique ou l'effort majeur. Maintenant, la dernière... Ah oui, avant ta dernière question. La question de madame. Oui. Dans ma vie, j'ai appris à utiliser ou à m'inspirer de la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Sincèrement, si en contexte islamique, j'aime pas beaucoup dire l'islam, parce que d'abord, monsieur, l'islam n'existe pas. Le mot islam est devenu un mot valise dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Ça va depuis les logorées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure mythologisée désormais de Ben Laden jusqu'à la mystique intériorisée dans les cœurs. Et donc on ne sait pas à quoi ça renvoie. Et donc je parle des contextes islamiques au pluriel, ou de réalité humaine, de réalité complexe, de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique islamique. Mais bon, si au moins dans ces contextes-là, on avait formé des sémitisants, on avait formé des hébraïsants, on avait formé des spécialistes de la patristique, de l'histoire de l'Église, et qu'on a cessé de faire croire à des générations entières que le monde a commencé en 622, et qu'avant 622, ce fut le temps de l'obscurantisme, de l'ignorance, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qu'à partir de 622, le 16 juillet pour certains, c'est le temps des Lumières, et c'est parce qu'on a commencé à considérer que la sagesse des Grecs faisait partie des sciences intruses, et bien là, malheureusement, l'idiotie a pris le pas. Bon, maintenant, ailleurs, est-ce qu'il faut lire le Coran ou pas? Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille le lire directement. Voltaire disait que c'est une rhapsodie sans ordre, ni liaison, ni art. C'est peut-être sans droit, parce qu'il est déroutant. Tout simplement parce que l'ordre des sourates, sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, n'est pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre simplement décroissant du nombre des versets. C'est comme ça, la tradition arabe, cette fois-ci, même du temps du paganisme, c'était de classer les recueils. Enfin, les recueils de poésie, c'était de l'ode ou du poème le plus long au poème le plus court. Et donc, ce n'est pas à la fois chronologique, mais en plus, il faut avoir un guide de lecture. Et tout dépend aussi des traductions. Kazimirski, au XIXe siècle, avait traduit un des versets qui fait problème maintenant. Et maintenant, il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez, faites-en un carnage. Je puis vous assurer que ça n'existe pas dans le texte originel arabe. Et d'ailleurs, le verset dans sa totalité, c'est ce qu'utilisent les criminels. Hein. On est en retard. Bon, on est en retard. Alors, je ne vous donne pas la suite. Et pourtant, c'était intéressant. Donc, parce que j'obéis à ce que dit Paul. Alors, pourquoi l'histoire, oui, quand j'ai dit tout à l'heure qu'elle était mutilée et mutilante, c'est vrai. C'est vrai, et nous payons tout ça. On ignore... Allons visiter, emmenons nos jeunes gens, nos jeunes concitoyens au 8e département du Louvre consacré aux arts de l'islam. On verra qu'il y a un art figuratif ou figuré, qu'on trouve des miniatures persanes où le prophète est représenté, que les histoires du voile, etc. sont superfétatoires et que ce n'est pas ça l'essentiel de la tradition religieuse islamique, ni à travers l'histoire ni maintenant. et on trouvera beaucoup de choses. Alors malheureusement, à cause à la fois de l'œuvre coloniale, il y avait deux types d'écoles d'orientalisme. Il y avait une école d'orientalisme savante et il y avait une école d'orientalisme mise au service de l'œuvre coloniale où on avait raconté des bêtises et des mensonges. Et on a mis en avant les histoires du fatalisme, du Mektoub, etc. Et ben, alors peut-être que Najat Vallaud Belkacem ou d'autres, son successeur, se rendra compte qu'il faudrait revoir la présentation des manuels scolaires et de l'histoire au niveau de l'éducation nationale.
Voilà.